la joie que j'ai d'être parmi vous une fois encore pour vous exposer un thème qui est intéressant, édifiant, les souffrances et les gloires du Messie dans les psaumes. Je vous propose un exposé en deux grandes parties, donc ce soir, la première partie, introduction, l'incarnation du Messie, sa vie, et demain, Dieu voulant, la deuxième partie avec sa passion, son règne, et enfin, une conclusion. La toute première partie, l'introduction, les généralités vont être quelque peu techniques. C'est quand même intéressant de connaître le contexte. Je suis un ferme partisan de situer toujours les choses dans leur contexte, parce que c'est là qu'elles prennent leur vraie dimension. La parole de Dieu peut se découper, non pas artificiellement, mais sur les enseignements même de notre Seigneur, en sept parties. En Luc 24, le Seigneur Jésus ressuscité dit aux disciples d'Emmaüs, « Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, fussent accomplies. » Et voilà donc un plan en trois parties de ce que nous appelons l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Mais ce que l'on connaît un peu moins, c'est que le Seigneur a donné aussi le plan du Nouveau Testament qui allait être révélé par l'Esprit Saint. Et c'est donc lorsqu'il était réuni dans la chambre haute pour le dernier repas de Pâques qu'il a parlé de la venue du Saint-Esprit. Lui s'en va, le Saint-Esprit va venir le remplacer, et parmi les fonctions du Saint-Esprit, on trouve ceci. Il vous rappellera les choses que je vous ai dites, et ce sont les évangiles. Il rendra témoignage, et vous aussi vous rendrez témoignage, et ça c'est le livre des actes. Il vous conduira dans toute la vérité, et ça ce sont les épîtres. Et enfin, il vous annoncera les choses qui vont arriver, ça c'est l'Apocalypse. Si bien que nous trouvons un plan donné par le Seigneur Jésus lui-même, un plan de la parole de Dieu. Et nous voyons ici la position des psaumes. Le livre des psaumes est divisé donc en cinq livres sur lesquels nous allons un tout petit peu revenir. Mais il faut savoir que le livre des psaumes est pour ainsi dire le livre des records. Il est par exemple le livre le plus long de la Bible. Ensuite, il contient le chapitre le plus long de la Bible, et vous l'avez ici, avec le psaume 119, avec 176 versets. C'est comme un gratte-ciel, et le thème est l'amour de la parole de Dieu. Et si vous voulez un peu gratter le ciel, eh bien, lisez le psaume 119, attachez-vous à la parole de Dieu, c'est elle qui nous révèle tout ce que Dieu, partout, mais beaucoup de choses que Dieu a voulu nous révéler, parce que Dieu a d'autres moyens aussi de révélation. Voilà les psaumes les plus longs, mais le troisième record, c'est que il y a aussi le livre le plus court, le chapitre le plus court, avec le psaume 117, qui ne contient que deux versets. Ce psaume se trouve exactement au milieu de la Bible, si vous comptez le nombre des versets. Donc ce sont des choses quand même intéressantes. Le livre des psaumes est exceptionnel à plusieurs égards. Que contient le psaume 117 ? Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous, et la vérité de l'Éternel demeure à toujours. Louez Jah, ou louez le Seigneur. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, au centre, au cœur même de la parole de Dieu, ce psaume le plus petit, et avec simplement deux versets qui nous invitent à la louange, à nous les nations. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. C'est un recueil, donc deux recueils, il y a cinq livres. Psaume 1 au psaume 41, 42 à 72, 73 à 89, 90 à 106 et 107 à 150. Il faut savoir que cette division n'est pas artificielle, mais existe quand même dans le texte original. Si nous comptons simplement le nombre des chapitres, eh bien vous avez ici une représentation proportionnelle. Mais pour être plus exact, j'ai compté les versets, pour savoir quel était le livre plus long, hein, c'est sans grand intérêt, mais on voit manifestement que c'est le livre premier et le livre cinquième qui sont les plus longs. Dans les psaumes, il y a différentes familles. Et on peut regrouper les psaumes de différentes manières. La manière dont je vous parle ce soir n'est pas obligatoirement la meilleure. Il y a des thèmes, des différents thèmes dont on peut tenir compte, comme la gloire de Dieu, la louange, le Messie, les imprécations, les psaumes qui contiennent des imprécations, les psaumes de prière, etc. Mais aujourd'hui, nous allons nous occuper plus spécialement des psaumes relatifs au roi, au Messie. Et dans ces familles, on trouve les psaumes de souffrance, les psaumes royaux, les cantiques de Sion et les chants du règne. Comme déjà dit, il ne faut pas voir les choses de façon trop carrée, mais c'est une approche qui est didactique. Que sont les psaumes royaux? Les psaumes royaux sont ceux, bien sûr, qui parlent du roi. Et en premier lieu, du roi qui était le roi d'Israël. Et nous verrons tout à l'heure que derrière ce roi d'Israël, on peut voir un plus grand que David ou qu'un autre roi. On peut citer divers psaumes comme le psaume 2, l'intronisation du roi, 18, le Tédéum royal, je te loue Dieu, le 20, prière pour le roi, le 21, 45, 61, 63, 72, 89, 101, 132. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin, et ce n'est pas le thème principal. Consacré par l'onction, le roi, adopté par l'Éternel comme son fils, psaume 2, verset 7, était le représentant de Dieu sur la terre, vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis des nations. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Nous sautons des fois très vite sur les choses, et quand on lit le psaume 2, on dit « c'est Jésus ». Oui, oui aussi. « Mais tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré », quelque chose qui pouvait s'appliquer au roi David, qui était, lors de sa intronisation, accueilli comme fils. Vous voyez, ce sont des notions qu'on connaît un peu moins. Comment comprendre les psaumes royaux? Alors, la dynastie davidique, à laquelle appartenaient les rois, dont il est question dans ces psaumes, était choisie par Dieu pour gouverner son peuple et avait reçu la promesse qu'elle occuperait à jamais le trône du peuple de Dieu. Donc on voit un roi qui est, d'une part, chef des armées, et c'est Dieu qui va se servir de lui pour délivrer son peuple. Donc l'avenir du peuple de Dieu et l'œuvre divine de salut en sa faveur sont liés à cette dynastie. Les dangers qui menacent le roi mettent en péril, bien sûr, le peuple de Dieu, mais et réciproquement. Donc le royaume davidique est considéré comme une irruption du royaume de Dieu dans un monde hostile. Comment identifier les psaumes messianiques? Parce que si on veut trouver les versets et les psaumes qui parlent du Messie, bon, il faut les identifier. Je vais vous en parler plus en détail après. Mais nous pouvons soit les chercher en les lisant, en se servant des fois des suscriptions qu'il y a dans certaines Bibles, en plus de celles qui se trouvent dans les psaumes. Nous pouvons aussi considérer les citations dans le Nouveau Testament. Alors, tout ça, c'est un travail quelque peu fastidieux, mais intéressant. Vous regardez dans la traduction d'Arby, les lettres majuscules en notes, qui sont des citations. Là, vous regardez ce qui concerne les psaumes, et on arrive au résultat suivant, c'est que le psaume 110 est le plus cité. Le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme le marchepied de tes pieds », c'est le verset premier, il est cité 8 fois. Après le psaume 118, 5 fois, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Le psaume 2 est cité 4 fois. Le psaume 69, qui parle des souffrances du Messie, 4 fois aussi. Et puis le psaume 8, 3 fois, la gloire en création, et puis d'autres, donc comme 16, 22, 78, 91, 40, 45 et 102, sont cités 2 ou 1 fois. Donc, c'est une manière de découvrir les psaumes messianiques puisque les apôtres ou le Seigneur s'y sont référés. Ici, il faut mettre un bémol. Savoir qu'il y a des limites dans les psaumes messianiques. Même dans les psaumes qui nous apparaissent comme pleinement messianiques, il y a des versets que l'on peut difficilement intégrer. Très difficilement intégrer. Je vous en donne 2 exemples. Dans le psaume 40, le verset 12 est souvent cité en rapport avec l'expiation. Des maux sans nombre m'ont entouré, mes iniquités m'ont atteint, elles dépassent en nombre les cheveux de ma tête et mon cœur m'a abandonné. Très bien. Et on pense qu'il s'agit du Seigneur qui expiait nos péchés, qui se substituait à nous devant le jugement de Dieu. Mais les versets 14 et 15 parlent de vengeance. Que ceux qui cherchent mon âme pour la détruire soient tous ensemble honteux et confondus, qu'ils se retirent en arrière et soient confus ceux qui prennent plaisir à mon malheur, que ceux qui disent de moi « ah, 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 ah » soient désolés en récompense de leur honte. Et là, nous avons un problème, parce qu'on ne peut pas, bien que ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme sauveur devront le rencontrer comme juge, on a de la peine à penser que notre sauveur en croix, qui venait juste de dire « pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », disent en même temps « ne les loupe pas quand même ». C'est pas possible. Donc, ça pose un problème que je vais essayer de résoudre en vous donnant quelques pistes. Psaume 69, le verset 4 peut trouver une réalisation dans la passion. Alors, le verset 4 du psaume 69 nous dit « Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort, mes ennemis sont puissants, ceux que je n'avais pas ravis, je l'ai alors rendu. » Pourquoi pas? On pourrait dire, bien oui, c'est le Seigneur, et là, confessant nos péchés à notre place, il a souffert lui le juste pour nous injustes afin de nous amener à Dieu. Mais le verset 5, la suite. « Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. » Et en hébreu, le sens c'est « Tu connais mon péché contre la vérité et mon insolence morale. » C'est le sens. On ne peut pas le donner au Seigneur. Vous voyez ? Donc, il faut prendre le verset 4, il ne faut pas prendre le verset 5. Un sous-chapitre, la lecture christocentrique des psaumes, c'est-à-dire voir Christ dans les psaumes. Il y a ce que l'on appelle en latin l'analogia scripturae, c'est donc l'analogie de l'écriture. Et par cette étude, par cette conférence, celle de demain, nous allons quand même vérifier plusieurs choses, savoir cette analogie, la cohérence du message biblique entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'aspect prophétique de l'Ancien Testament, l'inspiration de la Bible, parce que si des choses qui concernent Jésus-Christ ont été dites de lui 1000 ans avant, ça ne peut être que par l'Esprit de Dieu et par la voix prophétique. Il faut aussi que nous sachions que le livre des Psaumes est le livre le plus cité donc dans le Nouveau Testament, devant Ésaïe et le Deutéronome. Et la plupart des citations des Psaumes concernent le Seigneur Jésus. Alors nous en arrivons donc à un problème. Le problème est le suivant, c'est qu'on ne peut pas lire honnêtement les Psaumes sans se poser la question que posa jadis l'eunuque de la reine de Candace à Philippe à propos du livre d'Ésaïe, en lui disant « Mais dis-moi, le prophète, dit-il cela de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Parce que je ne comprends pas. » Et lorsque nous lisons les psaumes, nous sommes confrontés à cette interrogation en disant « Oui, mais ça, c'est qui parle ? C'est David, c'est l'Esprit de Dieu ? C'est qui ? » Et on ne peut pas échapper à cette interrogation. Regardez si nous lisions de façon simplement objective, comme une étude de texte, les psaumes. Psaume 22, c'est David, ce sont tous des psaumes de David, sauf le dernier, la dernière phrase. « Mon Dieu, psaume 22, verset 1, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, dit David, je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné. » Prenons la suite du verset, « Te tenant loin de mon salut. » Psaume 62, verset 6, « Dieu seul est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. » On pourrait dire ailleurs, un secours toujours facile à trouver. Le verset 2, « Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point. » Psaume 138, « Au jour où j'ai crié, tu m'as répondu. » Psaume 22, verset 2, « Et de nuit, il n'y a point de repos pour moi. » Psaume 127, verset 2, là c'est de Salomon, « Dieu donne le sommeil à son bien-aimé. » Et alors lequel il faut prendre? Donc c'est un problème. Alors comment résoudre ces choses? Eh bien parfois, d'évidente façon, le psalmiste parle de lui-même, de ses propres expériences. Et puis d'autres fois, le psalmiste parle de quelqu'un d'autre. Et on va venir tout à l'heure sur le verset d'un Pierre qui nous explique que ces prophètes, parce que David était aussi prophète et un porte-parole de Dieu, en plus quelqu'un qui des fois dit des choses à l'avance, et c'est bien le cas de David. Donc il parle de quelqu'un d'autre, et donc l'épître de Pierre va nous apporter de la lumière tout à l'heure. Manifestement, ce qu'il écrit sous l'inspiration de Dieu le dépasse. Il dit des choses, il parle d'expériences qui dépassent. Parce que quand il dit « Tu m'as éprouvé au creuset, tu n'as rien trouvé. » Ben bon, David, quand même, si j'ai bonne mémoire, il était quand même adultère, il était quand même meurtrier. Bon, il faut quand même, des fois, un tout petit peu d'humilité. « Tu m'as éprouvé au creuset, tu n'as rien trouvé. » Bien sûr, il y a le pardon. On sait que Dieu éloigne nos péchés, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Mais quand même. Donc on sent que, par moments, ces prophètes, ces hommes de Dieu s'envolent et disent des choses qui le dépassent, et c'est ce que nous confirmera l'apôtre Pierre. Peut-on appliquer les psaumes à Jésus? C'est une vraie question. Est-ce qu'on est autorisé à le faire? Alors, ma réponse est catégorique, oui, et j'en donne trois raisons. La première, c'est parce que certains psaumes le font de façon évidente. Les psaumes qui parlent du Messie s'appliquent à Jésus. N'oublions pas qu'il a déclaré lui-même, quoique souvent il ne l'ait pas fait, mais il a déclaré lui-même qu'il était le Messie. Ne serait-ce qu'en Jean 4, à la femme samaritaine. « Je sais que le Messie vient, quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. » Il lui dit « Je le suis, moi, qui te parle. » Voilà. Donc, il était le Messie. Il y a des psaumes qui parlent du Messie, donc les psaumes parlent de Jésus. Deuxième argument, Jésus lui-même s'est approprié des passages des psaumes. Et on pense à Marc 12, où il nous est dit, où le Seigneur Jésus pose la question. Dites-moi, c'est après la grande confrontation des derniers jours à Jérusalem, mais dites-moi, comment disent les scribes que le Christ est fils de David? Car David lui-même a dit par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. » David donc l'appelle Seigneur. Et comment est-il son fils? Il voulait les amener à la conclusion que le Messie était tout à la fois fils de David, mais qu'il était Seigneur de David. Et lui était justement fils de David, et il a dit en autre occasion qu'il était Seigneur du sabbat et qu'il était Seigneur de tout. Donc c'était lui. Par déduction, il fallait qu'ils en arrivent à la conclusion qu'il était le Messie envoyé par Dieu. Peut-être un mot pour expliquer le mot Messie. Le Messie, c'est traduit en grec le Christ, c'est celui qui a reçu l'onction divine, qui est désigné par onction, on versait de l'huile sur les rois, sur les sacrificateurs. Et donc c'est celui qui est choisi, l'homme que Dieu a choisi pour l'accomplissement de ses desseins. Et troisième argument, c'est que les auteurs inspirés du Nouveau Testament appliquent certaines des déclarations des psaumes à Jésus. Donc si eux, par l'Esprit Saint, le font, je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas le droit de le faire. Je vous lis un passage, en Actes 13, versets 32 à 35. « Et nous, nous vous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse qui a été faite au Père, que Dieu l'a accomplie envers nous, leurs enfants, ayant suscité Jésus. » Comme aussi il est écrit dans le psaume second, « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Or qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ne plus devoir retourner à la corruption. Il a dit ainsi, « Je vous donnerai les grâces assurées de David. » C'est pourquoi il dit aussi à un autre endroit, psaume 16, « Tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. » Donc nous voyons que l'apôtre Paul applique les psaumes à Jésus. J'ai dit, « Sommes-nous autorisés à le faire ?» La réponse est oui. Même plus, nous sommes invités à le faire. Et nous retournons maintenant en Luc 24. Le Seigneur a accompli l'œuvre de la croix, il est ressuscité, il marche avec les disciples d'Emmaüs et il leur dit. Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que, il fallait quoi? Eh bien, que toutes les choses qui sont écrites de moi, ou dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, fussent accomplis. Donc Jésus-Christ lui-même se réfère aux psaumes en disant « Il parle de moi ». Les psaumes parlent de Jésus. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Alors tout cela nous a été révélé. Et nous en venons au passage important d'un Pierre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée se sont informés et ont qui avec soin recherchant quel temps quelle sorte de temps, l'Esprit de Christ qui était en eux indiqué, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lesquels des anges désirent de regarder de près. Nous allons donc faire une lecture chrétienne des psaumes. C'est-à-dire, nous allons mettre des lunettes, nos lunettes de chrétiens, que nous portons sans nous en rendre compte. Et nous allons lire les psaumes, pas tous, j'ai fait le travail pour vous, pour trouver des versets qui nous parlent de la personne du Seigneur Jésus. Alors, je ne vous les citerai pas tous, c'est trop long, mais je vous recommande quand même l'exercice. C'est-à-dire qu'il suffit de lire les psaumes, bon, ça prend quelques temps, surtout si on le fait lentement, mais quel plaisir à le faire. Tous les matins, dès que je me réveillais, j'évite faire mon café, et puis je me mets dans mon bureau, et là, je recherchais les souffrances et les gloires de Christ dans les psaumes. Oh, essayez vous-même. Alors, dans un premier temps, ça vous semble froid, comme la neige, et puis petit à petit, la verdure est là, la chaleur est là. Et ainsi, des versets d'apparence plats et sans signification prendront un relief inattendu. Des terres arides ou glacées se revêtiront de verdure et de chaleur. Le psaume 65 nous dit « Tu as visité la terre ». Tu l'as abreuvé, tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l'amollis par des ondées, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de ta bonté, et tes sentiers distillent la graisse. Ils distillent sur les pâturages du désert, et les collines se saignent d'allégresse, les prairies se revêtent de menu bétail. Et les plaines sont couvertes de froment, elles poussent des cris de triomphe. Oui, elles chantent. Comment trouver les psaumes cités dans le Nouveau Testament? Alors, plusieurs méthodes, du plus compliqué au plus simple. Alors, le plus compliqué, c'est lire le Nouveau Testament en entier en notant les citations. Mais encore faut-il les connaître. Deuxième méthode, identifier les citations en italique, suivant les éditions, et voir les parallèles, pour les éditions qui comportent des parallèles. C'est une recherche qui est intéressante, que j'avais faite quand j'avais 20 ou 25 ans. Et alors, la plus simple pour nous, surtout, lire les notes majuscules du Nouveau Testament d'Arby, puisqu'elle mentionne toutes les citations, ou à peu près. Mais il y a encore mieux, vous allez à Bible et Publications Chrétiennes, vous achetez la Concordance, et vous regardez au chapitre 5, puisque vous avez toutes les citations de l'Ancien Testament que l'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est un travail de recherche, on va dire, une partie intellectuelle, sans aucun doute, mais qui apporte beaucoup. Maintenant, plus difficile, comment trouver tous les versets des psaumes qui s'appliquent au Seigneur? De toute manière, on ne sera pas d'accord. Mais, eh bien, on peut aussi, en connaissant bien le Nouveau Testament, en lisant entièrement les psaumes dans cette optique, on dira, oui, mais celui-là, ça me dit quelque chose. On va chercher là où il est. En contrôlant les références parallèles des psaumes du Nouveau Testament dans une Bible d'étude ou à parallèle, là aussi, on va enrichir la recherche précédente et on dira, bah tiens, ça renvoie aux psaumes, qu'est-ce que ça dit? C'est tout un travail de recherche. Et puis, en lisant aussi attentivement les psaumes royaux, puisqu'ils nous parlent du roi, ils peuvent nous parler aussi du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. En conclusion, on peut dire qu'il y a dans les psaumes beaucoup plus de versets qui parlent du Messie que ceux qui sont cités littéralement dans le Nouveau Testament. Alors, attention quand même, il faut mettre une réserve, c'est-à-dire que il est souvent difficile et parfois impossible d'appliquer la totalité d'un psaume messianique à Jésus. On l'a vu tout à l'heure. Suivant le moment, Christ ne se réfère qu'à des expressions des psaumes, et non à la totalité d'un psaume. Il y aura bien un jour de jugement, mais quand ce n'est pas le temps, le Seigneur ne le cite pas. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et les auteurs inspirés eux-mêmes ne se réfèrent qu'à des versets ou des expressions des psaumes, et pas aux psaumes entiers. Donc c'est une approche quand même délicate qui demande un peu de sagesse et de spiritualité. Donc nous devons avoir la même sagesse et ne pas forcer les textes pour leur faire dire ce que nous aimerions qu'ils disent. C'est très pratique de faire parler la Bible, parce qu'en ce moment-là, on entend une voix connue et aimée, qui est la nôtre, pas celle de Dieu. En conclusion, on pourrait dire que les psaumes nous parlent de Jésus. Et puisqu'ils nous parlent, on va essayer de les écouter parler. Mais je vous propose de vous lever pour que nous chantions le cantique 200 des hymnes et cantiques. Considérer maintenant la personne du Seigneur Jésus dans les psaumes. Nous allons commencer par son incarnation. Éternité et divinité du Fils, du Messie. Le psaume 102 nous dit « Tes années, c'est Dieu qui parle au Messie, sont de génération en génération. Tu es le même, titre divin, et tes années ne finiront pas. » Nous savons qu'un tel passage est cité dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er. Et au passage, c'est un verset très très fort que l'on peut citer aux témoins de Jéhovah ou à ceux qui nient la divinité du Seigneur, puisque dans le psaume 102, normalement il s'agit de Jéhovah, de Yahvé, de l'Éternel. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, il nous est bien dit, mais quant au Fils, Dieu dit, tu es le même. Et tes ans ne finiront pas. Éternité divinité du Fils. On trouve cela aussi en Ésaïe, c'est hors des psaumes, bien sûr. C'est la vérité, dit Dieu, vous êtes mes témoins, afin que vous connaissiez et que vous me croyiez, et que vous compreniez que moi, je suis le même. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et après moi, il n'y en aura pas. C'est un titre divin. Et nous comprenons un peu mieux le verset de Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Auprès de Dieu, différent. Elle était Dieu, notre Seigneur, et pleinement divin. Divinité du Messie. Psaume 45, verset 6. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité. Alors, en hébreu, le nom de Dieu est un tétragramme, quatre lettres. Yod, Vav. En français, dans cet ordre, YHWH ou encore IHVH. Suivant les traductions, on va trouver, dans la Darby, la seconde, l'éternel. Il n'est pas facile de comprendre le sens exact de ce tétragramme, puisque je vous rappelle que le texte hébreu est un texte consonantique, c'est-à-dire qu'il ne contient que des consonnes. Et suivant les voyelles que vous ajoutez, bien sûr, vous avez des résultats différents. Alors, pour comprendre le sens, il faut lire à Exode 3, où Dieu se révèle à Moïse et lui dit « Je suis qui je suis ou je suis celui qui suis ». Et après, il dit « Tu diras « Je suis m'a envoyé » et il répète « Yahvé, YHWH, m'a envoyé ». Donc, on peut penser que YHWH ou Yodé Vavé est une forme du verbe « être » en hébreu, si bien qu'on a traduit l'éternel, celui qui est toujours l'éternel, et principalement à la réforme. Mais d'autres, les catholiques, et puis d'autres personnes, y compris dans les traductions modernes, comme la Nouvelle Bible Second, mettent Seigneur. Alors ce qui est intéressant, c'est ceci. Ça c'est la version Chouraki, qui n'a pas voulu traduire le nom de Dieu, et qui a mis simplement YHVH quand il y a l'éternel, ou l'équivalent, ou l'original du mot éternel. Mais les Juifs, ayant une crainte superstitieuse de prononcer le nom de Dieu, ne prononçaient ni Yahvé, ni Jéhovah, ni ceci et cela, ne prononçaient pas parce que tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu. Ils croyaient que c'était simplement le nom, le prononcer sur la bouche, alors que ça a bien sûr une raison plus profonde. Et donc, lorsqu'ils rencontraient le mot, ils le sautaient, mais ils ne pouvaient pas le sauter parce que ça devenait incompréhensible, alors ils le remplaçaient par Adonai. Et Adonai, ça veut dire monsieur, ça veut dire seigneur. D'où cette traduction moderne, de Seigneur. Alors maintenant, on dit d'accord, mais ça c'était en hébreu ou en français, et en grec c'est quoi? En grec, il se trouve que le tétragramme hébreu est traduit par Kurios, et le mot Seigneur est aussi traduit par Kurios. Si bien qu'on ne peut plus faire la différence dans le texte, et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Seigneur, c'est exactement pareil que si vous prononciez le nom de Dieu en hébreu. Donc, preuve encore de sa divinité. Et on trouve cela dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, vous avez reçu le Christ, le Seigneur. Vous regardez, il y a un astérisque en version Darby, ça renvoie à l'éternel. C'est une grosse question pour les témoins de Jéhovah, mais Jésus n'est jamais appelé Jéhovah, pour eux, ils vont dire, l'éternel pour nous. Et c'est pas vrai, regardez 1 Pierre 3. Le Messie, aussi le créateur de toutes choses. Toujours dans le psaume 102, « Tu as jadis fondé la terre ». Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et encore une fois, nous revenons à Hébreux 1. Mais quant au Fils, Dieu dit, toi dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voyez, on voit que le Messie est Dieu, que le Messie est le Créateur, et sous la plume de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit dira, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Quand Dieu introduit le premier-né dans le monde, alors Hébreux 1, encore une fois, nous dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est une citation du psaume 97, où on trouve ceci, « Vous, tous les dieux, prosternez-vous devant lui. » Mais la traduction grecque des 70, deuxième siècle avant Jésus-Christ, traduit les dieux par les anges. Il est vrai que le mot « dieu » en hébreu est utilisé pour des anges et aussi pour des hommes. Tout n'est pas toujours très simple. Et dans le psaume 103, j'ai pris la Nouvelle Bible Seconde, « Bénissez le Seigneur, vous ses anges puissants en force, qui exécutait sa parole. » Donc on voit que le Messie est au-dessus des anges, et le Nouveau Testament nous dira, il a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, et nous voyons qu'il est adoré par les anges. Alors quand le Fils vient, Eh bien, je commence cette fois par le Nouveau Testament. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire au Dieu ta volonté. » Ça, c'est Hébreux 10, versets 5 à 7. Mais, à vrai dire, c'est le psaume 40. Donc nous voyons qu'on pouvait déjà trouver cela dans le psaume 40. La venue du Messie, la venue de celui qui, selon le psaume 2, est fils. Alors, quand le Fils vient, la parole devint chair et habita au milieu de nous. Dieu va choisir un pays, le pays de Canaan, le pays d'Israël. Il va choisir un pays qui est appelé le pays de Dieu, qui est appelé le pays de l'Éternel. Et Dieu va se faire homme en venant dans le ventre d'une vierge, selon la prophétie du prophète Ésaïe, voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. On appellera son nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Oui, nous chantons avec bonheur, le ciel a visité la terre, Emmanuel vient jusqu'à nous, Dieu se fait homme, au saint mystère que son peuple adore à genoux. Nous connaissons donc ce récit de Luc, la déclaration de l'ange Gabriel, tu concevras dans ton ventre, tu enfanteras un fils, tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Être qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et cela m'a fait penser à un psaume, puisque c'est le sujet, au psaume 139, que l'on applique à la naissance d'un enfant qui est toujours un miracle extraordinaire. Mais mettez-le dans la bouche de Jésus-Christ, je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière, je parle à Jésus-Christ en tant qu'homme, tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. L'apôtre Jean dira, nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Dieu choisit donc un pays, une femme, une ville et nous trouvons là le miracle de Bethléem. Matthieu 1, l'ange dit à Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout cela arriva, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète et que j'ai cité tout à l'heure, voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui interprétait est Dieu avec nous. Et nous trouvons, donc selon la déclaration de Luc 2, un petit enfant, ce sont les bergers qui trouvent un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alors, nous pensons au psaume 2, je raconterai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et dans le psaume 22, c'est toi qui m'as tiré du sein qui m'a porté. Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. C'est à toi que je fus remis dès la matrice. Tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. Après Bethléem, il y a Nazareth. Dans l'humble maison de Nazareth, on montre à Nazareth la grotte dans laquelle la tradition dit qu'il l'a vécu. Peu importe. Psaume 71. Tu es mon attente, Seigneur éternel. Ma confiance dès ma jeunesse. Je me suis appuyé sur toi dès le ventre. C'est toi qui m'as tiré hors des entrailles de ma mère. Tu es le sujet continuel de ma louange. Psaume 143. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Ou encore le psaume 119. Ta parole est bien affirmée. Et ton serviteur l'aime. Est-ce que nous arrivons à nous imaginer un tout petit peu Jésus-Christ enfant qui, avec ses parents, fait sa prière et prononce peut-être de telles paroles ? Qu'a été Jésus enfant ? Des dizaines de livres apocryphes nous racontent tout en détail. La parole de Dieu est muette. Mais néanmoins, j'ai aimé mettre de telles paroles dans la bouche de notre Seigneur. Et dans Jean 1, verset 47, j'ai pris la traduction de la Bible du semeur, cette exclamation de Nathanaël. Voici un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Ah pardon, excusez-moi, c'est dit de Nathanaël, hein, ouais. Oui, mais alors je voulais simplement dire que si on a pu dire cela d'un homme, c'est le Seigneur Jésus qui le dit de Nathanaël, combien plus pour notre Seigneur, combien plus un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Et Jésus va donc grandir dans les chocs d'un charpentier. Il est appelé le fils du charpentier, charpentier lui-même. Et là aussi, est-ce que nous arrivons un instant à nous imaginer la vie de cet, avec tout respect, ouvrier, un ouvrier qui aidait son papa dans son échoppe de charpentier. Charpentier, à l'époque, semble-t-il, n'était pas simplement le fait de préparer des charpentes, mais aussi on pouvait fabriquer des bateaux. C'était un ouvrier en bois. Et pendant longtemps, puisque Jésus commence son ministère à 33 ans, donc pendant peut-être 15 ans et peut-être plus, Jésus a travaillé tous les jours de ses mains à préparer des charpentes, des portes, des bateaux. Quelle chose extraordinaire! Alors, j'ai aimé mettre dans sa bouche de tels versets. Psaume 16, toujours proposer l'Éternel devant moi. Et ça m'a fait penser au verset. Quoi que ce soit que vous faites, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, l'Éternel, pour raconter tous tes faits. Psaume 63. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi, ma chair languit. Après toi, psaume 26, sonde-moi, ô Éternel, éprouve-moi, examine mes reins et mon cœur, car ta bonté devant mes yeux, j'ai marché dans ta vérité. Psaume 17, verset 3, verset que je cherchais tout à l'heure, tu as sondé mon cœur, tu m'as visité de nuit, tu m'as éprouvé au creuset, tu n'as rien trouvé, ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Fils de charpentier, Matthieu 13, 55, appelé le charpentier, Marc 6, verset 3. En contemplant la personne du Seigneur Jésus à travers les psaumes, nous pouvons dire, tu es plus beau que les fils des hommes. Psaume 45, verset 2. L'entrée du Messie dans le ministère, vient nous connaissons la parole, qui nous présente notre Seigneur, qui va au Jourdain, et qui est baptisé par Jean le baptiseur. Et dans le psaume 16, nous pouvons lire ces paroles, « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Tu as dit à l'Éternel, tu es le Seigneur, ma bonté ne s'élève pas jusqu'à toi. Tu as dit aux saints qui sont sur la terre et aux excellents, en eux sont toutes mes délices. » Et nous voyons cette chose extraordinaire, savoir que Jésus va se mettre avec les repentants de son peuple, ceux qui sont, me semble-t-il, appelés ici les excellents et les saints. Parce que on ne peut être reçu par Dieu que non pas sur une base de propre justice, de prétention, mais sur la base de la conviction de ses péchés, sur la base d'une repentance et sur la base de la foi en lui. Et donc Jésus, hélas, s'associe aux résidus pieux de son peuple qui sent le besoin de pardon et il est baptisé. Jean le baptiseur dit, mais enfin, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Et Jésus lui dit, laisse faire jusqu'ici. Et pour que on ne confonde pas le Saint-Fils de Dieu avec cette masse d'hommes, même appelés excellents, la voix du Père se fait entendre du ciel pour dire, celui-ci parmi tous est mon Fils bien-aimé, ou plus exactement, tu es mon Fils. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Donc Jésus et le Messie entrent ainsi dans le ministère, tout d'abord par le baptême et ensuite par la tentation. Immédiatement, il est éprouvé comme furent éprouvés nos premiers parents. Nous savons que le diable le place sur le faîte du temple et va lui-même citer le psaume 91, et je vous cite le contexte, les versets 9 à 12. « Parce que toi, tu as mis l'Éternel, Mon refuge, le Très-Haut pour ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder en toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Le diable cite ce verset de la parole de Dieu. Et nous apprenons une chose importante, que pas seulement les chrétiens ou les juifs citent la parole de Dieu. Le diable cite la parole de Dieu, mais il la cite en la tronquant, et il prend bien garde de ne pas citer le verset d'après qui dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'asie, tu fouleras le lionceau et le dragon ». Certes, Dieu allait protéger le Messie qui mettait en lui sa confiance, c'est vrai cela. Mais le Seigneur lui répond « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Il ne relève pas même le fait qu'il a tronqué le verset, et il aurait pu dire « Oui, mais je marcherai aussi sur le lion et sur l'asie, tu vas être vaincu ». Nous savons que par sa mort, Jésus a vaincu celui qui avait eu le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, mais en parfaite dépendance de son Père, il ne dit que ce qu'il a à dire. Il ne discute pas avec le diable. Mais nous voyons que lors de la tentation, le psaume 91 a été cité. Et après, c'est donc l'entrée dans le ministère. Un ministère qui va se décomposer en trois parties. Il y a le ministère qu'on appelle galiléen, au nord, avec pour centre Capernaum. Et c'est à Césarée, puisque je vois le nom, que l'apôtre Pierre, répondant à la question du Seigneur, qui disent les hommes que je suis, et toi, qui dis-tu que je suis ? Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Quand ce ministère est terminé, donc au nord, et il dure environ 2 ans et demi, Jésus va descendre vers Jérusalem, cette ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Ce qu'on appelle le ministère péréen. La Pérée étant cette partie de l'autre côté du fleuve. Donc, de l'autre côté du fleuve Jourdain, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Jésus descend le long du Jourdain et va faire diverses choses, mais il a devant lui l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Et puis, il y a le ministère donc judéen du Seigneur, principalement la dernière semaine où il va être confronté aux instances politiques et religieuses tout à la fois, jusqu'à donner finalement sa vie. Donc voilà un survol rapide. La principale activité du Seigneur s'est passée en Galilée, donc au nord, autour du lac de Tibériade, où nous retrouvons des villes connues, comme Nazareth, où il fut élevé, Capernaum, Chorazim, Bethsaïda, d'où étaient Pierre, Jean, Philippe, et Cana, où il changea l'eau en vin, ou Naïn, où il ressuscita le fils de la veuve. Tout ça, simplement pour planter un peu le décor, Jésus fut un homme dépendant dans son ministère. Quant à la prière, on peut mettre dans sa bouche ce psaume 5, verset 3, éternel. Le matin, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Il était l'homme dépendant. Fais-moi connaître, dit le psaume 25, versets 4 et 5, tes voies, ô Éternel. Enseigne-moi tes sentiers, fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi. Un homme dont les paroles étaient, selon son propre témoignage, les paroles mêmes de Dieu, dont les actes étaient les actes de Dieu. L'homme dépendant. Quant à la loi de Dieu, il pouvait dire, psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi. Tous les jours, tout le jour, je la médite. » Psaume 40, verset 8, « C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Quand il parlait, il annonçait la justice, et il pouvait dire, « J'ai annoncé ta justice, je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur. » J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. Quant à la confiance, psaume 91, on l'a lu. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance, mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Et nous trouvons dans l'évangile de Jean ce verset extraordinaire. En Darby, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mieux, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous trouvons dans le ministère du Seigneur l'accomplissement donc de prophéties que l'on trouve dans les psaumes. Dans le psaume 9, verset 18, il est dit « Le pauvre ne sera pas oublié ». Psaume 146, verset 7, « L'Éternel met en liberté les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont courbés. » Et si nous lisons Luc 4, qui nous parle du Seigneur Jésus dans la synagogue de Nazareth, Jésus peut dire « L'Esprit du Seigneur est pour moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. C'est autour de cette ville, Capernaum, il reste, que Jésus a souvent prêché. Et c'est dans cette ville qu'il a fait de nombreux miracles. Et puis il montait sur les collines avoisinantes, et avec cette vue sur le lac de Tibériade, il enseignait par parabole, selon qu'il est écrit dans le psaume 78 au verset 1 et 2, « Prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. » Et on peut se demander pourquoi donc le Seigneur enseignait par parabole. Et la parabole est un instrument absolument extraordinaire. Certains pensent que c'est une illustration pour les enfants. Elle est cela, la parabole, mais elle est beaucoup plus que cela. Elle est une arme de guerre extrêmement efficace. Il vous suffit de lire la fin de la vie du Seigneur, et quand il parle justement de cette parabole des cultivateurs, c'était tellement peu de choses que, à cela, ils veulent le mettre à mort. Vous voyez, c'était pas la petite histoire. Et la parabole est une subtilité dans laquelle beaucoup de personnes entrent. Vous voyez ce dessin à gauche. Et tout de suite, vous allez, si on avait le temps, on ferait le test, vous trouvez deux genres de personnes. Qu'est-ce que vous voyez? Les uns disent, on voit un vase, hein, c'est clair. Et en plus, quand c'était en 98, on disait, mais oui, ça c'est la Coupe du Monde. Hein. On a gagné, on est les meilleurs. On est champion du monde. Donc ça doit être l'image du football. Mais aussi, les personnes qui sont plus penchées vers le relationnel disent, ce sont deux personnes qui sont face à face, en entretien, vous voyez. Ça, c'est la parabole. C'est-à-dire que la parabole va non seulement communiquer un enseignement, mais elle va mettre en relief ce que vous pensez, suivant la manière dont vous l'interprétez. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu comprends? Et suivant votre réponse, celui qui utilise habilement la parabole va savoir ce que vous pensez, ce que vous êtes. Suivant votre réaction. Donc, le Seigneur, selon le psaume 78, parle au peuple en parabole. Nous savons aussi que dans le même lieu, à peu près, à Tacma, on le situe là actuellement, le Seigneur va multiplier les pains. Et dans le psaume 145, nous avons cette citation, « Les yeux de tous s'attendent à toi, tu leur donnes leur nourriture en son temps. » C'est vrai que c'est sorti du contexte, mais d'un autre côté, mettons-nous à la place de ces gens-là, 5000 hommes qui étaient là, qui attendaient avec leurs femmes et leurs enfants, ils écoutaient les paroles du Seigneur. Et mis en application de ce que la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut être abondamment nourri par la parole de Dieu, mais il faut quand même un peu de pain à côté. Dieu le sait. Et il a multiplié les pains. Psaume 132. Je bénirai abondamment ces vivres, je rassasirai de pain ces pauvres. Et c'est ce qui s'est passé, puisque dans un cas, il est resté 12 paniers, l'autre fois 7 paniers de reste. Il y avait l'abondance. Et psaume 146, l'Éternel donne du pain à ceux qui ont faim. Nous voyons donc quand la personne de Jésus-Christ se réalisait les promesses et s'affichait les caractères du Messie. La tempête apaisée. Psaume 107. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Il les a fait sortir de leurs angoisses. Il arrête la tempête, la changeant en calme. Et les flots se taisent. Ils se réjouissent de ce que les eaux sont apaisées. Et il les conduit au port qu'ils désiraient. Dans Psaume 65, verset 7, tu apaises le tumulte des mers, le tumulte de leurs flots. Et si nous lisons le récit de l'Évangile, lorsque les disciples sont dans la barque, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. « Ne te mets-tu pas en peine de ce que nous périssions ?» Votre traduction plus littérale, « Ça ne te fait rien que nous sommes en train de périr ?» Et le Seigneur se lève, reprend le vent, dit à la mer, fais silence. Et ce fit un grand calme. Et dans un évangile, peut-être dans une des deux scènes similaires, ils arrivèrent, ils touchèrent immédiatement à la côte. C'est pas dit comme cela, mais c'est le sens. Voilà, réalisation de ce qui était marqué dans les psaumes. Il était réellement le Messie parmi les hommes. Au niveau des guérisons, psaume 146, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel relève ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, et nous trouvons dans les évangiles maints récits qui sont comme des commentaires et des réalisations de ces promesses. Combien d'aveugles le Seigneur a-t-il guéri? Nous pensons bien sûr à Bartimée, l'aveugle. Nous pensons à cet aveugle dans l'évangile de Jean. Le Seigneur lui met de la boue sur les yeux, l'envoie au réservoir de Siloé. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il relevait ceux qui sont courbés. Cette femme dont nous parle l'évangile, qui était courbée, que depuis, je ne sais pas si c'est 38 ans, des fois on mélange un peu, mais qu'importe, elle était courbée. Et ce dessin-là sur la droite est touchant, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai rencontré des personnes qui étaient absolument comme cela. Oui. Et alors, vous imaginez, le Seigneur lui pose la main, et elle se redressa, oui. Courbée, sous le poids, moralement, du péché, des fardeaux de cette terre. « Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. » Il était là comme le Messie qui délivrait son peuple. L'Éternel relève ceux qui sont courbés, l'Éternel aime le juste. Il va trouver dans le centurion romain, justement de Capernaum, je n'ai jamais trouvé une foi comme celle-ci. Il sera un exemple au peuple d'Israël. Néanmoins, Jésus fut inconnu des siens. Il fut inconnu des siens. Je suis devenu un étranger à mes frères et un inconnu au fils de ma mère. Voilà une maison, une représentation d'une maison de l'époque qui aurait pu facilement être celle de Pierre ou d'André. Et en Marc 3, on peut lire ceci. Marc 3, versets 20 à 21. Ils viennent à la maison et la foule s'assemble de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger leur pain. Et ses proches, ayant entendu cela, sortir pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Ses frères et sa mère donc viennent, et se tenant dehors, il envoyait rappeler, et la foule étant assise autour de lui, on lui dit, voici, ta mère et tes frères, là dehors, te cherchent. Il leur répondit, disant, qui est ma mère, ou qui sont mes frères? Regardant tout alentour ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc même ses très proches disent, il est fou, il est hors de sens, arrêtez-le. Je suis devenu un étranger à mes frères et un inconnu au fils de ma mère. Jésus-Christ a aussi enduré la contradiction des pécheurs contre lui-même, jour après jour. Et nous trouvons de multiples expressions dans les psaumes qui soulignent cette souffrance. Tout le jour, dit le psaume 56, ils tordent mes paroles. Toutes leurs pensées sont contre moi en mal. Ils s'assemblent, ils se cachent, ils observent mes pas, car ils guettent mon âme. Tu comptes mes allées et mes venues, tu mets mes larmes dans tes vaisseaux, ne sont-elles pas dans ton livre? Au passage, comme quelqu'un l'a écrit, on ne l'a jamais vu rire, mais pleurer souvent. Trois fois en tout cas, dans l'évangile, on voit notre Seigneur pleurer. Trois fois. Et vous chercherez qui? À quel moment? Psaume 69. Le zèle de ta maison m'a dévoré, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Souffrance du Seigneur face à la méchanceté humaine. Il a souffert aussi pour la justice. Psaume 3, Éternel. Combien sont multipliés mes ennemis et sont nombreux ceux qui s'élèvent contre moi. Psaume 25, regarde mes ennemis, car ils sont nombreux. Ils me haïssent d'une haine violente. Psaume 17, garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi sous l'ombre de tes ailes, devant ces méchants qui me dévastent, mes ardents ennemis qui m'entourent. Ils sont enfermés dans leur propre graisse, de leur bouche, ils parlent avec hauteur. Psaume 119, mes persécuteurs et mes oppresseurs sont en grand nombre. Je n'ai point dévié de tes témoignages. Autant de paroles que l'on peut mettre dans la bouche du Seigneur en certaines circonstances. La parole de Dieu dans l'Évangile est très sobre sur les émotions, sur les paroles du Seigneur, et surtout au moment de la croix, comme nous le verrons demain. Et c'est dans les psaumes que nous arrivons à trouver des paroles qui conviennent bien. A-t-on le droit de le faire? Je pense que oui, sinon je ne le ferai pas. On peut se tromper dans leur application. Mais cela nous fait quelque peu entrer dans les exercices de cet homme parfait confronté tous les jours au mal. Tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, et montrant une dépendance, une humilité qui sont la perfection. Qui sont la perfection. Au point que, lorsqu'on l'entendait parler, on s'étonnait, c'est Luc 4, des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Les gens disaient, jamais homme ne parla comme cet homme. Lorsque les huissiers sont envoyés pour le prendre, ils reviennent bredouille, ils disent, mais enfin, on ne peut pas. Jamais homme parla comme cet homme. Il parlait les paroles de Dieu, il était Dieu. Une telle contradiction des pécheurs contre lui-même, telle est l'expression qu'Hébreux 12.3 utilise. Il a subi la contradiction des hommes que nous étions et qu'il venait sauver. Je voudrais, en terminant cette première partie, faire un survol de ce que j'ai appelé les résidences divines. Jean 1 nous dit, il est venu chez soi, chez lui. Et les siens ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reçu. Alors, où est-il venu? D'abord, à Bethléem, qui appelait la propre ville de Joseph. Luc 2, 7, Marie mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La parole se fait chair, le Messie vient visiter son peuple, mais il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Matthieu 2, 13 nous dit qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Trois expressions de l'Évangile, pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pas de place pour à Bethléem, il doit fuir en Égypte. Ce qu'on veut faire, c'est le faire périr. Psaume 37, le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Parole que l'on peut bien appliquer à Hérode le Grand, au petit Hérode le Grand, parce qu'un homme d'une telle cruauté ne mérite pas le titre de grand. Jésus fut élevé donc à Nazareth, qui appelait leur ville, la ville des parents, et des parents de Jésus et de Jésus. Luc 4, vers 29. Lorsque Jésus revient, il a commencé son ministère et qu'il revient à Nazareth, il prêche. Il ouvre le rouleau du livre et il dit, voilà, ceci est accompli, vous l'entendrez. Il faut que nous lisions quand même ce passage parce qu'il est relatif justement au Messie. En Luc, au chapitre 4, c'est un passage important. Il vint à Nazareth au verset 16, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. Ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. Et ayant ployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendant. Autrement dit, celui qui devait accomplir cela était le Messie. Ce verset est écrit pour vous, et je suis le Messie. Cette parole est accomplie, vous l'entendant, je suis au milieu de vous. Alors, dans un premier temps, il s'étonne des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Et 5 minutes après, ils vont l'amener au bord de la falaise pour le mettre à mort. Donc, pas reçu non plus dans la ville où il a été élevé. Ils le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie de manière en l'an précipitée. Et vous avez une vue avec le mont Tabor à l'horizon, donc de Nazareth au bord des falaises. Psaume 119, verset 95. Les méchants m'attendent pour me faire périr, mais je suis attentif à tes témoignages. De Nazareth, Jésus alla à Capernaum. Capernaum qui appelait sa propre ville en Matthieu 9, 1. Et Jésus devra dire en Matthieu 11, et toi Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, c'est là où il avait fait tellement de miracles, c'est là qu'il y avait la fille de Jaïrus, c'est là qu'il y avait la femme avec une perte d'hémorroïdes, avec une perte de sang. Et toi Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras baissé jusque dans le Hadès, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous n'avez à Capernaum que ces ruines. Psaume 106. Ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes bontés, mais ils ont été rebelles. Et enfin, Jérusalem, qui appelait en Matthieu 5 la ville du grand roi. En Luc 21, nous pouvons lire, et ils passaient les jours dans le temple à enseigner. Et les nuits, ils sortaient et demeuraient dans la montagne qui appelait des oliviers. Jésus est à Jérusalem. Il n'y a pas de place pour lui dans le temple appelé une caverne de voleurs. Et Jésus se retire à Gethsémané. Et devant lui se profile déjà la croix. Dans ce jardin, il sait que là se mènera ce combat douloureux où sa sueur découlera en terre comme des grumeaux de sang. Psaume 26, Éternel, j'ai aimé l'habitation de ta maison et le lieu de la demeure de ta gloire. Mais il doit entrer, renverser la table des changeurs et dire, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et puis donc, Gethsémané, Psaume 22, 11, ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche. Car il n'y a personne qui se court. Dorénavant, il ne reste plus que la croix. Oui, nous pouvons bien dire que le Fils de l'homme venant sur la terre n'a pas eu de lieu où reposer sa tête. En entendant le monde, il avait pu dire « Voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » La volonté de Dieu était qu'un homme juste, Jésus-Christ, porte le péché des injustes que nous sommes, afin que nous puissions être sauvés. C'était cela la volonté de Dieu. Jésus, le Messie, le savait. Et il a donc dit dans le psaume 40, « Je viens, c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. » Et le plaisir de Dieu était que lui, le juste, je le répète, meure pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu, afin que nous puissions être sauvés. Jésus est allé jusqu'à la mort de la croix. Il avait cela devant lui comme un fardeau. Il disait qu'il était à l'étroit jusqu'à ce que ce baptême soit accompli. Et dans le psaume 42, il peut dire « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?» L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous dit qu'à cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix, ayant méprisé la honte. En Jean 12, on trouve encore cette expression, « Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu. » Jésus va mourir pour nous sur la croix, mais après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, après avoir accompli l'expiation, après avoir fait l'abolition du péché par son sacrifice, il baisse la tête, et il remet son esprit. On pourrait croire que tout est fini, mais non, Jésus-Christ va ressusciter. Jésus-Christ va régner un jour, mais ça, c'est le thème de la réunion de demain. Pour ce soir, nous terminerons simplement en lisant ce beau cantique, l'agneau de Dieu, le Christ expire sur la croix, le voile aussitôt se déchire à la croix, le lieu très saint est découvert, l'accès à Dieu nous est ouvert par toi, Jésus qui t'es offert sur la croix. Tu fus élevé de la terre sur la croix, pour nous tu bus la coupe amère sur la croix, ton amour a tout achevé. Dans ton sang, le croyant lavé sait qu'il est à jamais sauvé par la croix. Dans la honte a brillé ta gloire sur la croix. À toi, Jésus, fut la victoire sur la croix. À toi, durant l'éternité, soit force, honneur et majesté pour le triomphe remporté sur la croix.